et une nouvelle édition de l'économie en question. Trois invités dans ce studio pour échanger, pour confronter leurs analyses, leurs commentaires cette semaine sur une idée déjà ancienne mais qui a fait son chemin et qui prend des formes de plus en plus précises un peu partout dans le monde. Les termes pour la désigner sont très nombreux. Revenu de base, revenu allocation universelle, revenu inconditionnel ou d'existence ou de citoyenneté ou même citoyen. Il y en a d'autres encore mais l'idée générale est à peu près la même. L'État verserait à chaque citoyen un revenu minimal sans condition ni contrepartie. Aussi simple à dire que compliqué à faire, plusieurs éléments pourtant, incitent au moins à considérer cette proposition. Le contexte économique mondial d'abord, rappelons que le FMI vient de faire part de ses craintes d'une stagnation, la montée constante des inégalités, les coûts portés au travail traditionnel par la révolution numérique, les dépenses de protection sociale auxquelles plusieurs pays ne peuvent ou ne veulent plus faire face, et le bouillonnement qui agite un peu partout la société civile. Les Nuits debout en France en sont une illustration. Société civile donc en quête d'idées nouvelles, d'alternatives aux modèles actuels. Originalité du concept qui a bien sûr ses détracteurs et ses sceptiques, mais qui a aussi des défenseurs et c'est un fait intéressant. Ils viennent de tous les horizons de pensée économique et politique, du libéral à l'altermondialiste, de la droite à la gauche, y compris au sein des mouvements associatifs. C'est le cas en France comme ailleurs et les gouvernements aussi d'ailleurs prêtent l'oreille aux arguments. Rappelons tout récemment, c'était début janvier, le rapport rendu à la ministre du Travail par le Conseil national du numérique. Et parmi les propositions destinées à adapter le monde du travail au phénomène de l'ubérisation en cours, le Conseil appelle à réfléchir à la mise en place d'un tel dispositif en France aussi. Alors comme citoyen, écrit un de nos invités ici présents, je me félicite du débat ouvert par la proposition de revenu de base. Comme économiste, je me méfie des solutions toutes faites. Eh bien voyons justement ce qu'ont à dire sur le sujet les économistes. Faut-il expérimenter le revenu universel? C'est notre thème. Et je reçois donc Guillaume Allègre, c'est lui l'auteur de ces lignes. Ils étaient en train tous trois de se demander qui les avait écrites, économiste au département des études de l'OFCE. Philippe Askenazy, directeur de recherche CNRS à l'École d'économie de Paris et professeur à l'École normale supérieure. Et Claude Gamel, que nous recevons pour la première fois avec plaisir, professeur de sciences économiques à Aix-Marseille Université. En toute fin d'émission, Marie Bellan pour sa chronique. Elle est présente avec nous, journaliste aux Échos, notre partenaire. Et bienvenue à tous, c'est bien l'économie en question jusqu'à 12h30. Alors ce concept de revenu universel, Claude Gamel, quel est le mot que vous choisissez? Revenu d'existence, me semble-t-il. Ça n'a pas une grande importance, mais...
Ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ce sujet. Donc au départ, j'ai choisi allocation universelle dans le sillage de Philippe Van Parys, le philosophe de Louvain qui a beaucoup contribué en Europe à diffuser l'idée. En anglais, c'est basic income, donc on peut traduire par revenu fondamental. Bon, l'association pour l'instauration du revenu d'existence est fournit une troisième formule. Bon, l'idée essentielle est l'inconditionnalité du revenu, hein, qui est, à mon avis, l'ébauche, le socle d'une réforme radicale de la protection sociale, qui permet de dépasser les modèles bismarckiens et les modèles beveridgiens, dont la France est un compromis particulièrement complexe.
C'est votre point de départ, vous, la sécurité sociale. Et c'est peut-être là que l'on veut, si l'on veut un peu schématiser, dire qu'il y a, d'un côté, pour prendre les deux extrêmes, des partisans, hein, j'entends, de la mesure, ceux qui y voient une mesure de solidarité justement pour une meilleure émancipation des individus, leur choix de vivre et de travailler librement. Et puis de l'autre côté, ceux qui y voient, il me semble que vous y êtes peut-être dans cette deuxième catégorie, le moyen de faire des économies dans un maquis assez complexe d'allocations existantes et peut-être même d'alléger le système de protection sociale. C'est la philosophie de départ pour vous?
C'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette.
Pardon, alors, élargissons.
Je suis économiste, mais je suis arrivé au sujet par la philosophie. Et donc, c'est à travers la philosophie de Rawls, notamment de John Rawls, le théoricien de la justice, qu'il s'agit, à mon avis, de poser le problème.
Dans les années 70
début des années 70, qu'il a confirmé jusqu'à la fin de sa vie, il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. L'idée de base, c'est quand même d'affirmer ici, là, j'affirmerai un point de vue libéral. dans le sillage de Rawls, ce que j'appelle l'économie de l'égalitarisme libéral. Et donc, le revenu d'existence ou l'allocation universelle, c'est une traduction possible du principe de différence de Rawls, qui est dans cette théorie de la justice, au troisième rang. Hein. C'est pas le premier. Le premier, c'est l'égale liberté. Et je mettrai dans ces égales libertés, l'égale liberté d'accès à l'emploi, ce qui nous ramène à l'actualité de la réforme du Code du travail.
Voilà donc premier éclairage, Philippe Askenazy, est-ce qu'on peut donner l'autre partie?
Oui, alors, résumé, je sais pas, c'est vrai, un peu vite. Par ailleurs, il y a plusieurs.
Il y a plein d'entrées, on l'a tous constaté.
Il y a des quantités d'entrées. Et effectivement, il y a une part de libéraux, mais pas Rawlsien, plus néolibéraux, en quelque sorte, qui peuvent même se rattacher à cette idée. À travers plutôt le principe d'une forme de solde de tout compte. Voilà, on va donner un revenu inconditionnel de base et ensuite, d'une certaine manière, on va laisser les forces de marché jouer. On va plus véritablement se préoccuper d'avoir tel ou tel politique spécifique, par exemple une politique familiale, dans ce genre de dispositif, on va donner une part de revenus aux enfants, et donc il y aura quand même un aspect un petit peu familial, mais pas construit tel qu'il est aujourd'hui. Et puis, il y a une vision, donc c'est pas nécessairement faire des économies, c'est changer la donne, de la même manière que lorsqu'il s'agit de parler d'une flat tax, c'est un petit peu le même type de principe, quelque chose de très simple, de très plat.
Oui, c'est l'impôt plat pour tous.
Le but n'est pas de faire des économies, c'est de changer les règles du jeu.
Et de les simplifier au passage.
Et de les simplifier, mais avec toujours cette idée que le simple est nécessairement quelque chose de bon. Alors personnellement, comme économiste du travail, là où je vois le type de difficulté, c'est qu'on est déjà dans un monde où les systèmes redistributifs sont très contestés et aussi se traduisent par partiellement un rejet des personnes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une attente très forte dans une part de la population, et je pense qu'il est très largement majoritaire, notamment dans un pays comme la France, que l'on veut gagner sa vie. Et je crois sur ce plan-là qu'il y a un vrai souci à travers cet objectif-là. On parle de beaucoup de libération. C'est intéressant de voir dans le cas suisse, il y a des sondages parce que en Suisse...
Alors Suisse, oui. juste pour information, oui, on vote le 5 oui. juin sur le sujet en Suisse.
Voilà,
hein,
tout à fait. Il y a eu...
Et donc, Lausanne expérimente déjà, la mairie de Lausanne l'a
Alors il y a des expérimentations. Ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est pas du tout ce qu'on annonce, c'est que les gens vont s'arrêter de travailler ou autre, c'est une des peurs qu'il y a dessus, mais les personnes veulent continuer à travailler, mais justement parce que là, elles veulent gagner leur vie. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait derrière cela un très grand gain pour la société, pour la satisfaction des personnes. Et d'un autre côté, c'est quand même un danger, en tout cas, notamment aux personnes qui réfléchissent à nuit debout ou autres, qui veulent changer la société. Ma vue personnelle, c'est une manière de conserver l'ordre social tel qu'il est. Et c'est pour cela que je pense que beaucoup de libéraux sont pour ce type de dispositif.
Les arguments quand même relevés en Suisse, hein, je suis allée voir aussi, puisqu'ils sont en train d'en débattre largement. Il y a aussi les auteurs, notamment de la première proposition, hein, qui voulait forcer la Confédération à instaurer ce revenu, c'est « il n'y a plus assez de travail pour tout le monde ».
Alors, oui, il faudrait répondre à cette question, mais j'aimerais rebondir sur Rawls.
Sur ce qu'a dit Claude Gamel.
Dit Claude Gamel, parce que Rawls, en fait, était contre le revenu de base. Il a débattu avec Van Parijs.
Vous vouliez le dire aussi, Claude Gamel, bien sûr. Oui, oui.
Et il était contre le revenu de base. Et pour comprendre, il faut revenir sur les principes du revenu de base. Alors, ces principes, c'est d'être versé de façon universelle, d'un montant égal pour tous, sans contrôle des ressources et des besoins, et sur une base individuelle et non au foyer ou au ménage. Et en fait, ces deux caractéristiques peuvent être contestables, en fait, parce qu'elles ne répondent pas au principe de compensation, au principe de besoin. Mmh. C'est-à-dire, on ne donne pas à ceux qui ont plus de besoins. Aujourd'hui, par exemple, les minima sociaux sont faits de telle sorte que on donne plus à un handicapé via l'allocation adulte handicapé qu'à une personne valide. Donc, on donne 800 euros pour l'AAH et 525 pour le RSA. Donc on donne plus à ceux qui ont plus de besoins. On donne plus à, donc le principe de différence de rôles justifierait que je pense que l'on donne plus à ceux qui ont
et
plus
oui,
de besoins.
Au lieu de dire on est égalitaire, là, avec quand même voilà. Des nuances hein, selon que l'on est adulte, enfant. Enfin,
pour la base individuelle. Oui. En fait, on donne aujourd'hui plus à deux célibataires qu'à un couple parce qu'on pense que deux célibataires ont plus de besoins. Qu'un couple du fait des économies d'échelle.
Et là, vous rejoignez, par exemple, des économistes comme Jean Gadret. Je donne exprès des noms pour qu'on voit bien qu'il y a vraiment tout le spectre hein, de la pensée économique, en tout cas française, mais étrangère également. Jean Gadret est exactement sur votre ligne. Ce qui le dérange un peu, c'est cette remise en cause du principe. Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Claude Gamel.
Alors, je complète ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction et qu'a poursuivi mon collègue à ma droite ici. Je suis d'accord avec lui. Rawls n'a pas soutenu l'allocation universelle. Il y a eu un débat très intéressant, il y a une vingtaine d'années, entre Rawls et Philippe Van Parys, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le symbole du surfeur à Malibu. Et l'argument de Van Parys, c'était...
Le surfeur à Malibu. Ah bon.
Il y a un oui. texte de publié dans Public Affairs aux États-Unis où Van Parys montre que les surfeurs à Malibu, c'est-à-dire ceux qui choisissent de passer leur temps sur la plage à pratiquer leur passion, devraient être nourris par la société.
Ont le droit, comme tous les autres, voilà. D'être nourris par la société, alors, de donc, profiter des biens communs.
Et c'est la grande différence entre Rawls, qui était en effet partisan d'une intégration à la société, c'était prioritairement par le travail, d'où son premier principe, hein, principe d'égale liberté et d'accès à un marché du travail qui soit plus ou moins flexible. Hein, c'est un philosophe américain qui voit que le marché du travail comme relativement flexible. Et donc, après, une fois que les gens ont le travail, il y a la possibilité pour ceux de ne pas travailler, de pouvoir le faire à travers cette allocation universelle.
Oui.
Et alors, deuxième chose, pour être vraiment montrer qu'on n'est pas tout à fait sur la même ligne, c'est qu'en effet, je suis d'accord avec mes deux collègues, c'est pas du tout la défense de la satisfaction des besoins, mais c'est une défense de la satisfaction de la liberté. Le bouquin de Van Parys s'appelait « Real Freedom for All », liberté réelle pour tous. Et donc c'est bien un changement de paradigme. Il ne s'agit pas d'avoir une politique ex poste de guichet pour satisfaire des besoins. Il s'agit de faire confiance ex ante aux individus. On leur donne un revenu et ils sont capables de le gérer. Les exceptions qu'on pourra énumérer, en effet, les handicapés, etc. Il peut y avoir des cas particuliers.
Mais vous avez
la règle,
aussi...
c'est de faire confiance a priori.
C'est une logique libérale.
Claude Gamel, c'est quand même une logique libérale, sans doute. Claude Gamel, vous avez dit aussi, et c'était votre toute première phrase, qu'en termes de protection sociale, ça pouvait aussi présenter des avantages. Des avantages, ça veut dire que ce serait moins coûteux que
alors
les
ça,
systèmes
ça
de protection sociale, parce que ça a été calculé en Allemagne, on a fait des calculs là-dessus. Et d'ailleurs, le mouvement pour le revenu de base, hein, qui est un peu parallèle au vôtre, a fait également ce calcul, arrive à peu près à la somme que l'on dépense aujourd'hui pour les minima sociaux, l'ensemble des protections. Alors là-dessus, ça pose quand même...
Ça dépend du montant qu'on donne. Hein.
D'autres questions.
Si c'est 400 ou 1000 euros, c'est pas du tout pareil. Hein.
Et les deux ont été calculés, Guillaume Allègre, Philippe Askenazy.
Oui, je voulais aussi répondre à la question sur la fin du travail que vous aviez évoquée tout à l'heure. On n'a pas eu le temps d'y répondre. Je pense que...
Au profit de tâches qui peuvent être non rémunérées, comme le bénévolat ou d'autres formes associatives aussi. Hein.
Je pense que... Alors, j'ai deux points là-dessus. Le premier point, c'est que je vois la fin du travail comme quelque chose de très hypothétique. Pour paraphraser le paradoxe de Solow, on voit des robots partout, sauf dans les statistiques de productivité. Et on peut penser qu'au XXIe siècle... la productivité va pas augmenter aussi vite qu'au 20e siècle. Pour ceux qui ont vu le film Demain, par exemple, l'agriculture raisonnée telle qu'elle est présentée dans le film est très intense en main-d'œuvre. Elle est peu intense en matière première, mais elle est très intense en main-d'œuvre. Pareil, le modèle éducatif finlandais demanderait d'embaucher beaucoup de professeurs des écoles. Et les énergies alternatives également sont beaucoup plus intenses en main-d'œuvre que les énergies fossiles.
Vous faites bien de parler de la Finlande. Hein. On va mentionner au passage quelques pays, même si on reste sur le cas français. La Finlande qui s'apprête à passer, elle aussi, à cette mesure du revenu de base dès 2017. Pour l'instant, c'est de l'expérimentation. Philippe Askenazy.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Guillaume Allègre, je pense que l'argument d'ailleurs est plutôt que la disparition du travail, c'est plutôt la fin du salariat, c'est-à-dire plutôt de dire il n'y aura plus de salariés, donc les systèmes de protection sociale tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, basés sur le salariat, ne sont plus adaptés. Et donc c'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit le Conseil national du numérique qui en parle. Il ne dit pas que les emplois vont disparaître, il dit que les emplois vont être transformés. Alors personnellement, là aussi, je suis extrêmement dubitatif, c'est-à-dire que je vois, c'est pas du tout ce que j'anticipe, même d'une certaine manière, un âge d'or du salariat. Sauf si on change le droit du travail de telle manière que tout le monde bascule dans une forme d'auto-entrepreneur. Donc, tout simplement parce que, par exemple, le numérique a plutôt tendance à générer des géants, on le voit bien. Même Uber, c'est un géant mondial. Et plus on a des grandes entreprises, des gros monopoles, finalement, c'est le salariat qui d'une manière ou d'une autre, s'impose. Donc, c'est pour ça, d'une certaine manière, on est dans une phase de transformation et ça peut être dangereux de dire on va changer le droit du travail, on va changer la protection sociale, alors qu'on ne sait pas finalement quelle va être l'économie dans un horizon en fait très bref, dans 3, 4, 5 ans, on ne sait pas quelle allure elle va avoir. Alors, on pourrait dire, prenons de toute manière, laissons ça, c'est contingent, et changeons la société à travers un revenu de base inconditionnel, etc. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui est défendu par les Suisses, qui eux mettent un niveau qui serait jugé en France totalement stratosphérique, c'est-à-dire l'équivalent de 2000 euros par adulte, oui, c'est-à-dire une somme quand même assez... on en rêverait en quelque sorte.
Oui, mais on signe tout de suite.
Mais oui, je ne sais pas si on signe, on signe tout de suite. Mais à nouveau, voilà, tout ça met le chapeau sur les inégalités réelles. Et je pense que, je crois que lorsqu'on dit que c'est quelque chose qui libérerait les personnes, leur redonnerait... c'est pas du tout évident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, fondamentalement, ce qui détermine votre vie, c'est le patrimoine que vous avez hérité ou ceux de vos parents, c'est le lieu où vous vivez et ce sont les études que vous allez faire. Et vous avez donc des trajectoires qui sont déterminées de cette manière-là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un pays où les inégalités s'incrustent, où la mobilité sociale est faible en France, typiquement, c'est sur l'école, par exemple, où il faudrait mettre des moyens de plus en plus important. Donc plutôt que donner à tout le monde la même somme, donner les mêmes conditions scolaires à tous les enfants français. Et vous voyez, je crois que d'une certaine manière, en mettant sur la table ce type de gros sujet, c'est aussi en termes de politique économique, une manière de dérouter par rapport à des questions fondamentales. Et c'est pour ça, je crois, à nouveau, c'est malheureusement, quels que soient les bouts qu'on le prend, alors que on pourrait comme progressiste dire oui, c'est plutôt quelque chose de protection de l'ordre social tel qu'il est. Et je crois que, justement, dans Nuit Debout, si on voit les cas espagnols ou autres, ou même américains, on veut renverser la société. Ouais. Et ce n'est pas à travers un outil que, nécessairement, on renverse la société, c'est en se mobilisant.
Claude Gamel, vous disiez, vous rangez dans la partie libérale, de la manière de considérer cette proposition, qui, je le rappelle, vraiment est répandue dans le monde entier. Il y a des exemples en Inde, en Namibie, on a eu beaucoup de cas intéressants, on n'a pas le temps de les énumérer tous, mais c'est pour montrer quand même que la réflexion est générale. Et généralisation, justement, celle de l'auto-entrepreneuriat, vous paraît-elle souhaitable? Ce que vient de nous dire Philippe Askenazy, c'est un modèle dont on peut se méfier, d'autant qu'il est peut-être dans une perspective d'une croissance très soutenue, ce qui manifestement n'est pas ce qui est en train de se passer par le monde.
Pour répondre à votre question, je ne sais pas plus que mes collègues, sur voir ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce qu'on arrive à un sommet du salariat ou est-ce que le salariat va décliner dans la population active? Je n'en sais rien. Je dis simplement que cette mesure-là permettrait d'accompagner cette éventuelle évolution. Pourquoi? Parce que le revenu inconditionnel permet un filet de sécurité minimum qui permet aux gens de prendre des risques, de prendre des initiatives dans des domaines où, évidemment, la rémunération sera peut-être aléatoire. Et si on bascule vers le revenu minimum, je vais là secouer fortement mes deux collègues, il s'agit de changer de paradigme en disant qu'il a possibilité à ce moment-là de passer du salaire minimum au revenu minimum. Parce que le salaire minimum, c'est une mesure des 30 glorieuses, qui a été créée en début des années 50, perfectionnée au début des années 70, à la fin des 30 glorieuses. C'est très adapté à une situation de plein emploi.
Mais plus c'est aujourd'hui pour vous.
Et aujourd'hui, ouais. quand vous avez un chômage massif de longue durée, le SMIC protège ceux qui ont un travail, mais pas les actifs, c'est-à-dire ceux qui voudraient travailler, mais qui n'ont pas d'emploi. C'est la grande différence avec le revenu d'existence.
Ouais,
donc
Guillaume
un basculement
Allègre...
du salaire minimum au revenu minimum fait partie du sujet, plus que la situation des auto-entrepreneurs.
D'accord. Mais donc la question des minima sociaux, on l'a bien compris, est au cœur quand même de la question. Vous êtes plutôt pour les augmenter, Guillaume Allègre,
oui,
de votre
oui,
côté.
Oui, je suis plutôt pour les augmenter. Je pense que Philippe Askenazy pourra défendre aussi le salaire minimum. Il l'a déjà fait de façon brillante dans d'autres lieux. Et je voulais revenir sur mon deuxième point tout à l'heure, parce que le revenu d'existence est souvent défendu comme une réponse à la fin du travail. Et je pense que, et au chômage technologique, Claude Gamel a parlé du chômage de masse, et je pense que français, et je pense que pour y répondre, la réduction du temps de travail est une meilleure solution que le revenu d'existence, parce que elle est
un partage plus généralisé du travail.
Un partage plus généralisé du travail est une meilleure solution, parce que qui va s'arrêter de travailler si on met en place le revenu d'existence? Si par exemple il est suffisant qu'il ait 2000 euros, c'est avant tout les bas salaires qui vont s'arrêter de travailler, avec le risque que si on le met en place 10 ans, 15 ans plus tard, il y a un autre gouvernement qui pourrait le remettre en question. Et qu'est-ce que vous ferez si vous avez arrêté de travailler pendant 5 ans ou 10 ans? Et deuxièmement, qui...
Oui, revenir au travail dans ces conditions-là, c'est quasiment impossible.
Et deuxièmement, qui s'arrête de travailler, par exemple, dans les couples avec enfants? C'est plus souvent les femmes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Malheureusement, on est encore dans une société patriarcale. Et donc, je pense que la réduction généralisée du temps de travail est une meilleure solution... pour répondre à cette question de la fin du travail.
Et l'augmentation des minima sociaux. Donc on voit bien, point de vue très opposé, Claude Gamel.
Pour prolonger l'intervention précédente, je ferai un petit rappel. Et à l'époque du gouvernement Jospin, il y a eu un rapport, Bellorger, sur la réforme des minima sociaux, qui nous ramène plus de 15 ans après dans la même actualité. Et quel était le problème à l'époque? Eh bien, le gouvernement Jospin pensait créer une extension du RMI vers les moins de 25 ans. Et donc, dans ce rapport Bellorger, on avait déjà évoqué la réforme des minima sociaux, c'est-à-dire, au plus tôt que de passer d'un inventaire à l'après-vert, hein, donc vous connaissez, hein, le minimum vieillesse, etc., etc., je crois qu'il y en a 7 ou 8 encore actuellement, différentes, eh bien, il s'agissait d'homogénéiser tout ça à travers un revenu minimum standard, éventuellement complété pour des cas particuliers, mais encore une fois, simplifié à ce niveau-là, et qui permettait également de mettre de la souplesse dans l'entrée sur le marché du travail des jeunes actifs. 16 ans après, nous sommes toujours dans la même situation, et les gens qui se réunissent la nuit place de la République, je crois, manifestent leur impatience de voir que rien ne passe.
Philippe Askenazy, on est déjà vers la fin de votre échange.
Du salaire minimum, oui, je crois que Claude Gamel pose vraiment dans les bons termes. C'est à nouveau... on vous donne une somme pour solde de tout compte. Et donc, on élimine très probablement, ça serait la dissolution du salaire minimum. Dans ma perspective, et d'ailleurs c'est ce que je développe dans mon ouvrage Tout sera entier, chez Odile Jacob, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est mettre en place ce type d'outils pour, au bout du compte, se retrouver dans une situation où ce sont les détenteurs du capital qui vont avoir une rente supplémentaire. Je vais vous expliquer dans le cas suisse. Donc, 2000 francs suisses, on en a parlé. Donc les Suisses ont rejeté par votation un salaire minimum à 4000 francs par mois. Là, vous avez 2000 francs par mois. Une caissière chez Lidl, c'est-à-dire vraiment le bas du bas en Suisse, en fait, il gagne 3000 francs suisses par mois, c'est-à-dire de l'ordre de 2500 euros, tout simplement parce que la vie est extrêmement onéreuse. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que même avec ces sommes-là, les personnes sont obligées de travailler et seront obligées d'accepter des emplois et accepteront à des salaires plus bas, comme ce que l'on voit d'ailleurs dans le cumul emploi-retraite. Les retraités acceptent des emplois à des niveaux plus bas que ce qu'ils acceptaient pour le même type de métier que ce qu'ils acceptaient lorsqu'ils travaillaient. Et donc, il faut faire très très attention. Le rapport de force, on nous dit dans ce type de revenu que c'est quelque chose qui va renforcer le travailleur. C'est pas du tout ce que l'on voit, en fait, lorsque on pense à des dispositifs qui ont déjà été mis en œuvre pour les renforcer. Au contraire, ils sont en situation où ils sont affaiblis parce qu'on leur met en face d'eux. Regardez, vous avez déjà une somme que la société vous donne. Vous devez accepter, pour le bien de l'économie, une baisse de vos revenus salariaux.
Et voilà le danger pour vous, Claude Gamel, ben dernier échange.
Non, c'est pas du tout un danger, c'est au contraire de la flexibilité qui est introduite, on est bien d'accord, mais, je crois qu'il y a quand même un consensus assez large, peut-être pas qui ne va pas jusqu'à vous, pour dire quand même que le marché du travail en France, on peut se demander s'il existe. Hein. Où est l'ajustement par le prix, le SMIC, les différentes rémunérations qui sont fixées en dehors du marché font l'essentiel. Donc, mettre un revenu minimum permettrait en effet, à ces salariés faiblement qualifiés de mieux résister à la pression de l'embauche, parce qu'ils auront derrière peut-être la moitié d'un revenu mensuel assuré. Et donc, c'est là où on retrouve Rawls. Parce que parmi les biens premiers de Rawls, il n'y a pas que le revenu, il y a les bases sociales du respect soi-même, il y a les positions au pouvoir, et le revenu de base donne du pouvoir à ceux qui n'ont pas autre chose comme pouvoir.
Autre point encore, mais ce sera à revenir sur ce débat qui est extrêmement, extrêmement riche, le coût aussi de la mise en place d'un revenu de base, après ça dépend quelle somme on lui accorde, quelle somme on attribuerait à chacun, pourrait être élevé pour les hauts revenus, d'accord avec ça Guillaume?
Oui, le coût serait élevé non seulement pour les hauts revenus, mais pour les classes moyennes.
Et les classes moyennes,
d'ailleurs. Oui, voilà, qui
auraient tant à pâtir aussi. Mais là, vous avez l'air d'accord, Claude Gamel, sur ce point.
C'est un deuxième problème. Il y a la réforme de la protection sociale, et puis il y a derrière comment on le finance. Si on joint les deux, je crois en effet, malgré ma passion pour le sujet, qu'on n'y arrivera jamais. Donc commençons par la protection sociale et regardons après comment on peut le financer. Mais là, il y a des travaux comme ceux de Tony Atkinson, auxquels je faisais allusion,
qui
montrent bien qu'il y a des idées. Hein. C'est-à-dire que si on rapproche le financement et le revenu inconditionnel, la flat tax d'Atkinson est une des solutions possibles.
À suivre donc. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur ce sujet. Donc, moi, je trouve personnellement assez passionnant dans le débat qui occupe aujourd'hui le monde économique et politique. Et sociale allant jusque-là. La chronique justement de Marie Bellan, on passe à toute autre chose, Marie Deséchos.
Oui, bonjour.
Qui a choisi un chiffre, quel chiffre?
Voilà, alors je m'éloigne un peu de l'actualité sociale cette semaine, mais je suis venue avec un chiffre qui est celui de 200 milliards. Alors c'est le montant de la commande publique qui est passée chaque année par l'État, alors en comptant à la fois l'ensemble des marchés publics et les concessions auprès des entreprises. Mais sur ce total, alors seuls 30% des contrats en valeur sont passés auprès des PME, alors qu'elle représente, je vous le rappelle, quand même 99% des entreprises. Alors c'est en grande partie pour faire évoluer cette situation et donc rendre l'accès des marchés publics plus facile pour les PME que le ministère de l'Économie a lancé une vaste réforme de la commande publique dont les grandes lignes ont été présentées hier vendredi. Alors l'objectif est simple, arriver d'ici 2 ou 3 ans à passer à 50% de contrats publics passés auprès des PME. Alors pour ce faire, Bercy s'est attaqué à plusieurs obstacles qui les tiennent éloignés de la commande publique. Alors d'abord le fait qu'elles sont souvent trop petites pour répondre à des marchés nationaux qui sont sur tout le territoire ou dont les volumes sont trop importants pour qu'elles puissent y répondre. Alors la réponse qui a été apportée là, c'est l'allotissement, c'est-à-dire le découpage des marchés publics en lots qui seraient accessibles aux PME et qui sera désormais la règle pour tous les marchés publics passés. Et cela représentera tout de même 1,5 milliard d'euros de marchés nouvellement ouverts aux PME. L'autre mesure importante, c'est le fait que les contrats de commande publique ne pourront plus exclure d'emblée les PME, ce qui était parfois le cas, et l'exigence de chiffre d'affaires minimum qui est parfois demandée par les acheteurs publics ne pourra plus dépasser 2 fois la valeur estimée du marché. Enfin, pour simplifier les démarches administratives, souvent très complexes pour une entreprise, on aura désormais un formulaire unique d'appel d'offres qui sera désormais disponible. C'est le fameux DUM qui a été imposé donc par une directive européenne par ailleurs. Alors cette série de mesures qui s'accompagne d'une refonte complète du code des marchés publics pour le rendre là aussi plus lisible, c'est un puissant levier quand même de relance pour l'activité économique des entreprises. Et 200 milliards d'euros d'investissement public à distribuer chaque année, c'est tout de même colossal. C'est en tout cas bien plus que la totalité du pacte de responsabilité, par exemple, et de ces 40 milliards d'euros de baisse de cotisations sociales qui ont été consentis sur 4 ans. Là, on a 200 milliards par an. Donc, autant flécher au maximum ces milliards d'euros vers les entreprises qui sont le plus susceptibles d'embaucher lorsque leur carnet de commandes se remplissent. Et là, ce sont quand même les PME qui sont les plus concernées.
Eh bien, merci beaucoup Marie. 200 milliards, donc on retient ce chiffre. Il y en aura d'autres dans nos prochaines émissions. Merci à nos trois invités, Claude Gamel, faculté d'Aix-en-Provence, Guillaume Alec, Philippe Askenazy, dont je rappelle tous rentiers, en effet, son ouvrage, où on retrouve à peu près hein, ces thèmes qui nous ont occupés. On retrouve aussi le site, bien sûr, de l'instauration pour un revenu d'existence, l'AIR, c'est votre association, et celle du mouvement de revenus de base et d'autres encore que nous avons rassemblés avec Laurence Genepin. Merci à notre petite équipe de réalisation, Ghislaine David, aujourd'hui avec Emmanuel Morse-Duncan, à Laurence, donc je l'ai dit aussi, on vous retrouve la semaine prochaine. Venez entre-temps faire vos commentaires sur notre site ou sur Twitter. À bientôt.